Nous parlons souvent à Fabrice de Pierrebourg, très loin, avec des fois des délais au téléphone, mais on finit par se parler, Fabrice. Et Fabrice, depuis 30 ans, a voyagé. Marc-André Posé aussi, celui qui est l'illustrateur de son très beau livre « Regard croisé de l'Arctique à l'Afghanistan » que vient nous présenter Fabrice. 30 ans donc de grands reportages, à voyager dans des régions qui sont particulièrement inhospitalières, mais souvent, à cause de la politique, des régions dangereuses.
Oui, puis on avait eu cette petite conversation avant d'entrer en onde, Paul. C'était aussi parfois à l'époque des régions qui ne l'étaient pas inhospitalières. J'ai quelques récits en Afrique, dans le Sahel, entre autres au Niger et au Mali, où je suis allé quand j'étais très jeune, avec plus de cheveux. Et à l'époque, ce que je racontais, c'est qu'on pouvait descendre le fleuve Niger sur un bateau, on pouvait traverser le désert dans une jeep, on pouvait s'arrêter dans des villages le soir, coucher à la belle étoile dans le désert, etc. C'est malheureusement une époque révolue, ouais. À cause de, on sait, de l'insurrection djihadiste. On l'a vu encore au Burkina Faso il y a deux jours, avec cette terrible attaque contre les employés d'une mine québécoise. Donc c'est aussi ça un peu l'esprit du livre, c'est vous emmener dans des endroits où vous ne pensez pas aller, où vous pourriez aller mais vous pouvez plus y aller, ou dans des conditions qui sont pas données non plus à tout le monde.
J'ai été surpris quand même, Fabrice, parce que vous ratissez géographiquement très large, de l'Arctique. Oui. À l'Afghanistan. Qu'est-ce qui vous a amené en Arctique?
Ben là, c'est plus mon collègue, Marc-André Posé, qui est l'illustrateur. Lui, c'est plus un spécialiste du froid, je dirais. Moi, je suis plus un spécialiste du chaud.
Oui.
Et quand... Parce que c'est un livre de rencontre avec l'autre, hein, justement, à travers quasiment toute la planète. Mais c'est d'abord une rencontre entre Marc-André et moi, et on s'est rendu compte que lui aussi avait des histoires, mais qu'elles n'étaient pas forcément au même endroit que les miennes. Et on a décidé, finalement, de les fusionner, ces histoires-là. Et en plus, Marc-André a illustré les miennes à partir souvent de mes photos, où il a recréé des scènes qui sont quand même, qui ne sont pas des fake news, des fake scènes, à partir de vidéos que j'ai dû prendre sur le terrain. Et il a gardé comme ça, c'était important qu'il garde sa liberté d'artiste pour illustrer ces histoires-là.
Et j'ai retenu un moment où votre texte rejoint justement ses talents d'illustrateur. Mossoul, ah oui. Irak, novembre 2016, ça fait 3 ans à peine. Le regard de cette petite fille aux cheveux roux, vous dites, qui révèle l'effroi, la terreur et, malgré son jeune âge, déjà l'expression d'un sentiment d'incompréhension.
Oui, et puis c'était, je pense que cet endroit-là, j'étais en onde aussi avec vous, Paul, mais c'était au moment, le contexte, au moment où la coalition essayait de reprendre la ville de Mossoul, cette grande ville du nord-ouest de l'Irak qui était sous domination du groupe armé État islamique. Et toute cette semaine, ces mois qui ont passé pour reprendre cette ville, on a dit que c'était l'équivalent de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, la plus grosse bataille urbaine. Ça s'est transformé en boucherie, quoi. Et je suis tombé à un moment donné dans un quartier périphérique de Mossoul. Il y avait la coalition qui avançait, les troupes irakiennes. Et je suis tombé sur cette famille avec cette petite fille qui était effrayée. Ils venaient de sortir de Mossoul. Ils essayaient de sortir de Mossoul, à la fois sous les bombes de la coalition, puis sous les tirs des snipers du groupe armé État islamique. Et ils venaient de trouver le repos près d'un mur, là où j'étais, contre un mur. Cette petite fille avait un petit jouet dans les mains. Elle était vraiment désemparée. Elle comprenait pas ce qui se passait. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai parlé avec eux pendant un moment. Et ils étaient quasiment sortis d'affaires là où ils étaient. Encore peut-être 1 ou 2 kilomètres, ils étaient sortis de la ligne de front. Et puis le père subitement m'a dit « il faut qu'on y retourne ». J'ai dit « il faut que vous y retourniez ». Oui, oui, il dit « parce que finalement je me rends compte que mes parents ne sont pas là ». Mais je dis « franchement, vous n'allez pas retourner dans cet enfer, dans ce cauchemar ». Il a dit « j'ai pas le choix, je ne peux pas laisser mes parents ». Et je leur ai donné de l'argent parce qu'il y avait des gens qui faisaient avec des ânes puis des charrettes, ils faisaient du commerce. Hein. Il y a le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je me suis dit « au moins ils n'auront pas à marcher ». Puis j'ai vu cette charrette s'éloigner, que cette petite fille qui me regardait, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est ça un peu le livre, c'est des rencontres marquantes, que ce soit de Marc-André ou moi, à travers le monde, pas forcément dramatiques toujours, mais qui nous ont marqués, quoi.
La peur de Kandahar.
Oui.
La peur de Kandahar, vous avez un chapitre, d'ailleurs, qui est traduit en bande dessinée.
Oui, oui, oui.
Parce que Kandahar, c'est là où on retrouvait aussi beaucoup de soldats québécois, canadiens.
Canadiens, québécois, oui, tout à fait.
Qui servaient. Vous nous ramenez à octobre 2007 en Afghanistan, et le titre... Évidemment, dit tout, vomir de peur, le danger de partir en mission et de sauter sur un engin explosif improvisé.
Oui.
Un de vos collègues l'a vécu, Patrice Roy.
Oui, juste avant que j'arrive, tout à fait.
Son caméraman a été grièvement blessé. Et donc, j'imagine que c'est une peur sourde, froide, qui vous guette parce que c'est aléatoire. Vous ne savez pas si ça va se produire ou non.
Oui, vous avez raison, Paul. Puis, c'est pas une peur de bombardement, c'est pas une peur de tir, c'est une peur justement qui est silencieuse.
Une anticipation, une angoisse en fait.
Et puis, même les soldats aguerris, puis ce vomir de peur, c'est un soldat qui me l'avait dit, il le ressentait, c'est que quand on partait, on roulait, on est enfermé dans cette espèce de VLB, de véhicule blindé, là on est à peu près 6 serrés les uns contre les autres, vous ne voyez rien de ce qui se passe à l'extérieur, à part sur un petit écran un écran vidéo un peu noir et blanc. Et les heures, les kilomètres vous paraissent interminables. Et parfois, on a dû rouler longtemps, loin, pas du tout. On avait fait à peine 30 kilomètres parce qu'il fallait s'arrêter souvent à la moindre. Et puis la responsabilité qu'avait le conducteur de tête, il doit lire la route en même temps. Il doit essayer de voir si le sable a été un peu bougé, s'il y a un fil qui dépasse quelque part, si le paysan qui fait semblant de bêcher dans son champ a pas une télécommande pour faire sauter une bombe artisanale quand on va rouler. Et l'unité dans laquelle j'étais avait perdu beaucoup, beaucoup de soldats. Et ils en riaient un peu. Quand je suis arrivé, moi, on m'a mis avec eux. Donc, comme on dit, j'étais embedded. Ils m'ont dit, vous avez tiré le numéro chanceux. On est l'unité qui a perdu le plus de soldats.
Vous vous rendez compte.
Et chaque soir, quand on arrivait.
Ouais, les probabilités sont peut-être plus faibles maintenant.
Parce que les Canadiens, en particulier à l'époque, c'était beaucoup de soldats du 22e de Valcartier, étaient dans le secteur le plus dangereux de l'Afghanistan, quoi.
Dites-moi, Fabrice, vous vous êtes fait demander, parce que je l'ai vu dans votre texte, en quelque part, on veut s'assurer que vous n'êtes pas américain. Parce qu'on reconnaît que vous êtes occidental. Oui. Et c'est une préoccupation. Enfin, on vous demande souvent. Est-ce que le fait de dire non, je suis Canadien, est-ce que ça tempère un peu leur agressivité, leur colère?
Oui, mais je l'ai encore vu. Moi, je suis allé en Syrie, je suis allé en Irak. Souvent, on me disait, êtes-vous américain? Je dis non. Je suis pas américain. Alors, j'hésitais entre Canadien et Français. Ça dépend des coins. Le Français, ça peut être bon aussi à certains endroits. J'ai deux passeports. Mais non, américain, on sent du ressentiment vraiment pour ce peuple-là. Et je pense que ça doit pas aller en s'améliorant avec leur président actuel.
Vous avez côtoyé les Kurdes.
Oui.
On en parle beaucoup dans l'actualité.
Des deux côtés, Irak et Syrie.
Et Irak et Syrie. Mm-hmm. Je ne peux imaginer comment les Kurdes doivent se sentir aujourd'hui. Eux qui ont été un partenaire essentiel dans la lutte contre le groupe armé État islamique. Ils ont donc travaillé
sur le terrain
avec les Américains, de sentir qu'ils sont littéralement abandonnés et coincés entre le régime syrien et le régime turc.
La choix entre le peste et le choléra, quoi.
Exactement. C'est ça qu'on leur a donné. Donc, une sorte d'abandon, une sorte de trahison, quoi.
Oui, mais c'était inéluctable, Paul, parce que moi, quand je suis allé au mois de mars, c'est drôle, j'ai retrouvé mes notes dans un carnet, j'avais parlé à des gens à Kamishli, qui est une ville qui est frontalière avec la Turquie, qui fait partie de cette zone convoitée par la Turquie, leur fameuse bande de sécurité. Et je leur disais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils disent, c'est pas compliqué, si les Américains nous laissent, on n'aura pas le choix que d'aller demander de l'aide au régime de Bachar el-Assad.
C'est incroyable.
Déjà au printemps, ils s'en doutaient qu'ils allaient être lâchés sur l'autel de la géopolitique, quoi.
Voilà un retournement. On ne s'étonne plus de rien maintenant en politique. Les voilà donc, d'une certaine façon, obligés d'être alliés de force au régime de Bachar el-Assad et forcément avec des appuis de l'Iran.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et des Russes. Au grand bonheur de Bachar el-Assad, qui d'un seul coup va pouvoir peut-être reprendre encore une dernière partie du territoire, parce qu'il lui manquait un tiers du territoire qui était justement sous la responsabilité des Kurdes de Syrie.
Fabrice, dans votre livre, ça paraît, vous aimez les grands déserts.
Oui.
Vous aimez beaucoup les déserts et vous aimez les grands paysages comme le Haut Atlas marocain.
Oui, tout à fait.
Où on peut faire du ski.
On peut faire du ski, effectivement. Non, mais ce que je disais en riant.
Non, mais quand on pense au Maroc, on pense à la chaleur, au sable.
Oui, le désert du Maroc. Oui, et comme au Liban même, d'où je reviens, ils font du ski quasiment toute la mer au Mont Liban.
C'est vrai.
Mais oui, je suis plus attiré par l'Afrique, le Moyen-Orient. Moi, c'est vraiment depuis que je suis tout jeune. Mes premiers voyages, c'était au Niger et au Mali. Je suis allé au Maroc, je suis allé en Tunisie.
Vous ne souffrez pas trop de la chaleur?
Non, j'adore
ça. Parce que vous avez été travailler dans des zones. L'Irak, c'est insupportable.
C'est insupportable.
En termes de chaleur, l'Afghanistan aussi.
Oui, mais je trouve que c'est moins pire qu'un été humide à Montréal.
Ah. Oui, la comparaison.
Non, mais c'est vrai.
L'humidité, effectivement.
C'est vrai, c'est la chaleur. Non, mais j'aime l'immensité. J'aime les peuples qui habitent ces régions-là, qui sont malheureux. On en parlait avant. Bien souvent, le Niger, Mali, Afghanistan, tous ces endroits-là. on ne peut plus y aller, on ne peut plus y aller. Et les gens, qui sont des gens, et c'est pas un cliché de dire ça, sont extrêmement hospitaliers. Et souvent, ces récits partent de rencontres, et souvent des rencontres autour d'un repas. Le nombre de fois où j'étais invité
à manger
ouais. chez des gens, alors qu'ils n'ont quasiment rien, que ce soit en Irak, en Syrie, partout, en Afrique, c'est hallucinant.
Vous avez tellement raison. Et la plupart de ces pays auraient besoin de ces devises importantes de tourisme.
Oui, puis c'est pas un tourisme de masse non plus.
Et évidemment, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus risqué. C'est pas impossible d'y aller, mais c'est à vos risques et périls.
Ben, disons que si je regarde la liste de tous les pays qui sont dedans, bon, à part peut-être la Russie, bon, on a Madagascar, etc. Il y en a beaucoup où on peut plus aller. À moins que ce soit son métier, à moins d'être journaliste humanitaire ou terroriste.
Mettons que c'est plus délicat.
Ouais.
Quand vous avez fait le livre, Fabrice, je sais que je regardais les illustrations, magnifiques illustrations couleurs.
C'est vraiment,
ce sont des dessins là, vraiment qui représentent. Mais vous aviez combien de photos vous avez dans votre téléphone, par exemple?
Moi, dans celui-là, j'en ai 9000. À chaque voyage, j'en ramène 1000. Puis là, en plus, j'ai compliqué la chose. Je me suis acheté un appareil photo. Donc, je double.
Tu doubles en plus.
Et puis, Marc-André avait les siennes aussi. Ouais. Donc,
Et c'est quoi le choix de l'illustration? Parce que c'est très beau.
Ben,
c'est un beau choix.
Thérèse, quand on parlait justement de Kandahar et de l'Afghanistan, on a décidé d'y aller par une bande dessinée au début parce que ça donnait du rythme, parce que le récit s'accélère.
Oui.
C'est sûr, quand on est quand on est dans le désert marocain, c'est plus lent. Quand on est dans un train, quand on traverse la Russie dans le transsibérien, c'est plus lent.
Oui,
c'est des histoires plus tranquilles.
Oui.
La bande dessinée donne ce rythme. Puis après, il y a couleur noir et blanc. C'est sûr que Marc-André, après son choix, c'était l'émotion qu'il voulait faire ressentir. Quand on est au trait, un dessin noir et blanc, on a plus d'émotion. C'est plus, on focus vraiment sur le dessin.
Et vous l'avez dit, Marc-André est l'homme du froid parce qu'il est allé au Nunavik.
Ah, il va partout aux endroits où
je
ne sais pas.
La région, évidemment, la plus septentrionale du Québec. Il ne faut pas confondre le Nunavut, qui est l'Arctique canadien. Le Nunavik, c'est l'Arctique, québécois.
Je me mélange toujours.
C'est pas grave. Et il est allé à Kangik. On appelle ça Kangik parce que c'est tellement long.
Oui, c'est ça.
Kangik, Soualoudjouak.
Et surtout, il est souvent sur la Munsen. Et ça, il y a un long récit de la Munsen. Le brise-glace canadien et scientifique. C'est aussi une manière d'explorer des enjeux actuels. Hein. Là, par exemple, l'enjeu du réchauffement climatique. Quand il va dans le Grand Nord, c'est tout ce qui est les problèmes que rencontrent les peuples autochtones, tous les drames qu'ils vivent, que ce soit les drames sociaux, la perte des repères d'identité, la modernité, etc. Mais lui, c'est sûr que c'est plus son domaine. Et quand il part, d'ailleurs, justement, là, il ne travaille pas d'après des photos. Quand il part sur le brise-glace, il part avec ses carnets, puis tous ces stylos, ces crayons, et il dessine en direct. Moi, j'ai vu ses carnets, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble.
C'est vraiment...
C'est magnifique, on regarde ses carnets, c'est des œuvres d'art en tant que telles.
Exact.
Alors que
on
pour
a l'impression
sujet,
que c'est une photo.
Oui, il a travaillé a posteriori, quoi.
Merci beaucoup, Fabrice
merci
de Pierrebourg.
C'est un beau livre, en tout cas. C'est vraiment un très beau livre.
Félicitations à Marc-André Posé. Ce livre, avec belles illustrations de M. Posé, paraît aux éditions La Presse. Fabrice, quelle est votre prochaine aventure en vue? J'appelle ça une aventure parce que quand on vous rejoint...
Je sais pas. J'aimerais bien retourner en Afrique.
On est toujours surpris que tu sois à Montréal quand on t'appelle.
Oui. La question, c'est toujours de
mais
dire...
Mais moi, je prends des photos, comme ça, on pourra pas dire que c'est fake voyage.
Ah non, c'est
moi,
ça.
Moi, j'ai des preuves.
Moi, je dis à Catherine ici, où est rendu Fabrice?
Ben là, je reviens du Liban, c'était formidable parce que j'ai pu assister à un mouvement unique quand même. C'est une espèce d'automne libanais. Moi, j'appelle ça l'automne libanais, un printemps arabe à retardement. Très pacifique, très joyeux,
ici aussi,
très euphorique.
Très pacifique ici, parce que j'ai assisté à une manifestation à Laval, notamment.
Il y en a beaucoup de Libanais.
Devant le manège militaire, à Laval, si vous connaissez un peu le coin. Et manifestation quand même pacifiste, mais importante.
Importante, alors qu'à côté, en Irak, c'est une tragédie.
Fabrice, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Paul.